Quand j'étais au collège, nous avions un cours d'histoire qui n'était pas piqué des hannetons à cause des dates qu'il me fallait avaler et qui concernent des événements et beaucoup de batailles qui ne me passionnaient guère. Et puis, on a appris les guerres de religion, c'est-à-dire entre les catholiques et les protestants. En fait, c'était beaucoup plus compliqué qu'une simple affaire de croyance. Ça sentait la politique à plein nez avec des luttes pour le pouvoir qui n'en finissaient jamais. Comme j'étais catholique, j'avais pris parti contre les protestants. Pourtant, ils avaient bien commencé, puisque Luther, Calvin et les autres ont dépoussiéré la doctrine du salut, prêchant que l'homme ne peut recevoir la vie éternelle que par grâce. Mais après, le mouvement a vite dégénéré. Aujourd'hui, les grandes dénominations ont tourné casaque. Au début du XXe siècle, par exemple, les protestants libéraux avaient le vent en poupe et réfutaient un à un tous les articles de la foi chrétienne. Dans les années 20, ils argumentaient que la résurrection, si résurrection il y a, était spirituelle et ne concernait pas le corps. Lors d'un congrès à Chicago, un fameux spécialiste de la langue grecque présenta une thèse qu'il avait écrite sur un passage d'une épître de Paul où l'apôtre écrit « Sommet corps naturel, on ressuscite corps spirituel ». S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Cet homme érudit, voulant prouver qu'il n'y avait pas de résurrection corporelle, mettait l'accent sur le mot « spirituel ». Paul dit bien « on ressuscite corps spirituel ». Les protestants de conviction libérale applaudirent comme un seul homme, se congratulèrent et proclamèrent haut et fort qu'il fallait publier ce manuscrit et le faire circuler partout. C'est alors qu'un autre spécialiste de la langue grecque se leva et jeta un pavé dans la mare. Il fit remarquer qu'un nom est toujours plus fort qu'un adjectif et que dans la phrase « sommet corps naturel », on ressuscite corps spirituel, le corps est le mot dominant. La résurrection est la transformation qui fait passer le corps d'un état à un autre. Il meurt parce qu'il est naturel, mais une fois ressuscité, il est spirituel. Mais c'est le corps qui est le point focal de la phrase. Suite à cette intervention magistrale, le manuscrit ne fut jamais publié et il est tombé dans les oubliettes de l'histoire. La résurrection, dans les Écritures, concerne toujours le corps et jamais l'esprit. Je continue maintenant à lire dans le 4e chapitre de la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Verset 13. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel, dans sa vision concernant la fin des temps, compare la mort au sommeil. Je lis le passage. « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Si la mort est comparée au sommeil, c'est à cause de la similarité entre ces deux états. Peut-être avez-vous eu l'occasion de vous trouver devant une personne décédée dans son lit ou dans un cercueil et qui donnait vraiment l'impression d'être simplement assoupie au point où on pouvait croire qu'elle allait se réveiller d'un instant à l'autre. Tout comme quelqu'un qui dort, même profondément, n'a pas cessé d'exister, l'esprit d'un mort continue lui aussi à être, mais dans une autre dimension. Et tout comme on sort du sommeil en se réveillant, les morts ressusciteront en un nouveau corps. Pour exprimer l'idée de la résurrection, les auteurs du Nouveau Testament utilisent un mot qui veut dire « mettre debout quelque chose qu'on peut prendre de ses mains ». Il s'ensuit que la mort et la résurrection s'appliquent toujours au corps de la personne et jamais à sa partie immatérielle, à l'esprit ou à l'âme. Les Grecs avaient un mot qu'on peut traduire par « lieu où on dort » et qui désignait la maison où les étrangers de passage allaient dormir. Cet endroit correspondrait aujourd'hui à un hôtel ou une auberge. On s'y rend pour passer la nuit et le lendemain matin, on se lève et on continue son voyage ou son travail. Eh bien, les premiers chrétiens ont choisi ce même mot, lieu où on dort, pour appeler l'endroit où ils enterraient leurs morts. La racine de ce mot a d'ailleurs donné cimetière en français. Pour le croyant du 1er siècle, le cimetière était donc un endroit où on allait dormir jusqu'à la résurrection. Si vous avez un ami qui se rend dans un hôtel, vous ne l'avez pas perdu pour toujours, vous savez que vous le reverrez. C'est pour cette même raison que concernant leurs bien-aimés qui se sont endormis, c'est-à-dire qui sont morts, Paul dit aux Thessaloniciens de ne pas s'attrister comme le font les païens, car ils les retrouveront le jour où le Seigneur reviendra. Quand un être cher nous quitte, on éprouve de la tristesse à cause de la séparation et de la solitude due à ce départ, et c'est normal. Même Jésus a pleuré sur la tombe de son ami Lazare, car il voyait combien ses proches souffraient de sa mort. Ailleurs, Paul écrit « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent ». Cependant, il existe une très grande différence entre l'espérance chrétienne et le désespoir des non-croyants pour qui la mort est une finalité abrupte et un mur infranchissable. Un poète latin écrit « Une fois que notre lumière brève s'éteint, il ne reste plus qu'une nuit perpétuelle où nous devons dormir. » Et sur les tombes antiques, on lit des épitaphes sinistres du genre « Je n'étais pas, je devins, je ne suis pas, je n'éprouve pas. » L'adieu des croyants est vraiment ce que ce mot veut dire. Ils confient à Dieu leurs bien-aimés, sachant qu'ils les reverront. Au fond, on peut dire que ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Car selon les paroles de l'apôtre Paul, il y aura un grand rassemblement auprès de Jésus-Christ lors de sa venue. Je continue à lire le texte aux Thessaloniciens. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 14. Comme j'ai déjà dit, selon les Écritures, la mort est avant tout une séparation et il y en a trois sortes. D'abord la mort physique, qui est une scission entre l'esprit et le corps, la tente que la personne habitait. Ensuite, la mort spirituelle, qui est l'état naturel de tout homme vis-à-vis de Dieu dont il est éloigné et étranger. Ailleurs, Paul écrit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés ». En troisième lieu, il y a la mort éternelle, aussi appelée la seconde mort, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Je résume un passage. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. L'enseignement de Paul aux Thessaloniciens ne repose pas sur les sables mouvants d'une philosophie humaine. Ce n'est pas non plus une mythologie religieuse destinée à réconforter ceux qui sont en deuil. Sa démonstration se fonde sur la réalité historique de la crucifixion et de la résurrection du Christ. La mort de Jésus a satisfait les exigences de la justice et de la sainteté de Dieu. Et sa résurrection est la preuve que le Père a accepté son sacrifice, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Pour ceux qui lui font confiance, Jésus a payé dans sa totalité le salaire de leurs péchés, le prix de leur rachat, et Dieu les traitera comme il a traité son Fils, en les ressuscitant des morts pour la vie éternelle. Quand il parle de la mort de Jésus, Paul n'utilise pas la métaphore du sommeil, mais le mot « ordinaire », signifiant par là que le Christ en a subi toute la furie et qu'il en a bu l'amertume jusqu'à la lie. C'est sa mort qui a transformé celle des croyants en sommeil. De même que Jésus est mort et revenu à la vie, les fidèles décédés, dont l'esprit est dans les cieux, recevront un corps qui se relèvera de la poussière. Puis rassemblés, ils accompagneront le Seigneur quand il viendra chercher les siens vivant sur terre. Ensuite, tous ensemble, ils seront emmenés au ciel avec Jésus. C'est cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Oui, dit Paul aux Thessaloniciens, vos bien-aimés décédés assisteront au retour glorieux de Jésus et ils seront même aux premières loges. Je continue le texte. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Verset 15. Ce que Paul écrivait aux croyants de Thessalonique ne venait pas de lui, de ses élucubrations personnelles, mais du Seigneur lui-même. Il parle avec l'autorité d'un écrivain sacré inspiré par Dieu qui a reçu une révélation divine. De plus, dans une autre épître, Paul précise que l'enlèvement de l'Église était un mystère, c'est-à-dire une vérité qui dans l'Ancien Testament était cachée mais maintenant est révélée. Quand Jésus était sur terre, il a insisté sur le fait qu'il reviendrait pour établir son royaume, mais il n'a parlé de l'enlèvement de l'Église que d'une manière très vague et en termes généraux. Je résume le passage. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Fin de citation. Paul espérait ardemment que l'enlèvement aurait lieu de son vivant, ce qui apparaît clairement quand il dit « Nous, qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra ». Et au début de cette épître, il parle des Thessaloniciens qui attendaient que revienne du ciel le Fils que Dieu a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Fin de citation. L'apôtre termine même une autre épître par « Maranatha », ce qui veut dire « Ô Seigneur, viens ». Cependant, il n'a jamais essayé de prédire quand l'enlèvement aurait lieu, contrairement à une foule de charlatans au travers des siècles. De plus, il envisageait aussi sa mort et sa résurrection corporelle comme de réelles possibilités. Il écrit par exemple « Comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance ». Paul acceptait simplement les paroles de Jésus qui a dit à ses disciples que, hormis son Père, personne, pas même lui, ne connaissait le jour et l'heure des événements qui font partie des temps de la fin. À une autre occasion, les disciples ont demandé au Christ, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Mais il leur a répondu, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Je continue maintenant le texte avec la description de l'enlèvement de l'Église. « En effet, au signal donné sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. » Verset 16. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il n'enverra pas ses anges comme lorsqu'il reviendra pour régner sur cette terre. À ce moment-là, les anges rassembleront les élus afin qu'ils entrent dans son royaume. Je lis le passage. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. Les anges ont annoncé la naissance du Christ comme fils de David, c'est-à-dire en tant que roi. Par contraste, aucun être angélique n'apparaît à la Pentecôte lors de la création de l'Église, puisque c'est le Saint-Esprit qui est lui-même descendu. Et au moment de l'enlèvement, c'est Jésus en personne qui se déplacera. Il descendra du ciel où il se trouve depuis son ascension. Je lis un passage. « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. » Fin de citation. C'est aussi du ciel que les Thessaloniciens attendaient sa venue. Il viendra au signal donné. Ce mot indique un ordre militaire et c'est Jésus qui le donnera, un peu comme quand il a crié à Lazare dans sa tombe. « Lazare, sors de là !» La voix du Fils de Dieu donne la vie. Une fois, il a dit aux Juifs, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Quelque part sur cette scène grandiose retentit aussi la voix d'un archange. Or, les Écritures en mentionnent un seul, Michaël. Mais selon la tradition juive, il y en aurait sept. En fait, on connaît très peu de choses sur l'organisation hiérarchique des anges. Ce qui est sûr est que l'enlèvement de l'Église sera très remarqué, surtout qu'en plus, elle se fera aussi au son de la trompette de Dieu. Il semblerait cependant que l'ordre du Christ, la voix de l'archange et le coup de trompette auront lieu simultanément. Enfin, ou plutôt en même temps, parce que tout cela se fera en l'espace d'un clin d'œil. Tous les croyants qui sont morts depuis la Pentecôte et qui faisaient donc partie de l'Église du Christ ressusciteront, c'est-à-dire que leurs esprits qui ont accompagné Jésus quand il est descendu du ciel réintégreront leur corps recomposé et glorifié. Je continue le texte. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Verset 17. Finalement, le projecteur de la révélation divine se tourne vers les croyants qui sont encore en vie sur terre. Ils ne ressuscitent pas puisqu'ils ne sont pas morts, mais ils seront changés, transfigurés, métamorphosés. Je lis le passage. « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. » Fin de citation. Les vivants transformés sont enlevés ensemble avec les morts ressuscités. Le verbe traduit par « enlever » exprime une action brusque et irrésistible. Quand Paul écrit qu'il a été enlevé jusqu'au troisième ciel, il utilise ce mot. Enlever peut aussi avoir une signification violente comme une prise d'assaut. Il décrit le loup qui s'empare des brebis et disperse le troupeau. Sur une note positive, ce mot est traduit par « arracher » quand Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Fin de citation. Finalement, là-haut dans les nuées, c'est le grand rassemblement de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire les morts ressuscités et les vivants transformés. Ils seront tout rayonnants de lumière comme le Christ lui-même. En effet, l'apôtre Jean écrit « Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. » Alors, toutes les phases du salut de ceux que Dieu a choisis seront accomplies. Je lis le passage. « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » Fin de citation. Comme j'ai déjà dit, on ne peut pas savoir quand l'enlèvement de l'Église aura lieu. Par contre, on sait qu'il se déroulera avant les jugements de l'humanité parce que cet événement extraordinaire ne concerne que des croyants. Or, ils ont déjà été jugés sur la croix quand Jésus-Christ fut crucifié à leur place. Après l'enlèvement de l'Église, tous les croyants de tous les siècles, depuis la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, seront au ciel dans un corps de résurrection, glorifié et en présence de leur Sauveur. Pour eux commencera alors véritablement l'éternité. Mais ils vont être très occupés par les événements de la fin des temps qui vont se dérouler sur terre. Je finis le chapitre 4. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Ces paroles de réconfort de l'apôtre Paul ont dû mettre du baume au cœur des Thessaloniciens qui se faisaient du souci pour leur bien-aimé endormi dans la mort. Un jour, Jésus reviendra sur terre pour chercher toutes les brebis qui lui appartiennent et il n'en oubliera aucune. Celles qui sont mortes ressusciteront et ensemble avec les vivantes, elles seront transformées à son image. Dans une autre épître, Paul appelle le jour glorieux de l'enlèvement de l'Église notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. C'est la grande espérance chrétienne.